Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous en sommes au livre des psaumes. Donc la dernière fois, on a fait le psaume 3 jusqu'au psaume 7. Et l'idée générale, qui est aussi l'idée générale des psaumes, c'était dans ces psaumes de 3 à 7, c'était des prières. Des prières. Qui commence par le schéma, qui suivent le schéma suivant, c'est qu'il y a une première partie où on affirme la divinité de Dieu, on affirme qu'il est Dieu. Et dans la suite, il y a les éléments suivants qui se retrouvent, pas toujours dans le même ordre, mais les éléments suivants se retrouve, c'est que après avoir dit Dieu, donc on affirme qu'il existe, on affirme qu'il est là, on parle de sa grandeur, on parle de sa toute-puissance, de sa miséricorde. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, la personne, en général David, va parler des ses souffrances, de ses difficultés, de ses problèmes, ou des problèmes de sa nation ou également, ou des problèmes dans l'humanité. Et quatrième élément, c'est quel est le lien entre la personne qui prie et Dieu. La personne va fixer ce lien-là, soit dire « Je suis ton élu, je suis ton serviteur, tu es mon Dieu ». Et cinquième élément, en relation avec le précédent, c'est le contrat aussi qui peut les unir. Tu m'as établi roi, tu m'as envoyé. Donc la personne rappelle à Dieu tout cela. Tu es Dieu, tu es grand, tu es tout puissant, adoration. Ensuite, voilà mes problèmes. Mais qu'est-ce qui me permet de venir te parler? C'est le lien que j'ai avec toi. Je suis ton enfant, je suis ton serviteur, et d'ailleurs, voilà le contrat qu'on a signé. D'ailleurs, voilà les promesses que tu m'as faites. Puisque la Bible, c'est un contrat. Donc, on rappelle à Dieu son contrat. Tu as dit que aucun mal ne m'atteindra. Tout homme forgé contre moi est sans effet. Donc, dans le psaume, c'est ça. On rappelle à Dieu le contrat. On rappelle à Dieu le lien qu'on a et le contrat lié à ce lien-là. Le contrat lié à ses promesses, lié à la mission qu'il nous a confiée. Et quand on fait cet exercice-là, on finit, puisque tout ça, ça mêle la foi aussi, on finit par être transporté dans les lieux élevés où tout est facile, où on se sent bien, où on sent que tout est réglé. Et les psaumes finissent par la louange, où la personne maintenant confesse, « Oh, je sais que tu m'as délivré, je sais que tu auras la victoire, je sais que tu vas me guérir, je sais. » Maintenant, c'est la louange. Tu es Dieu, tu ne manques pas tes promesses, tu es merveilleux. Voilà, la personne avait commencé par une sorte d'adoration, dire ce que Dieu est, et à la fin, il finit par la louange, proclamer ce qu'il a fait et qu'il va faire encore. Parce qu'il s'est élevé dans les lieux très hauts par la prière de la foi. Donc, on dit ce que Dieu est, on affirme sa divinité et on expose nos problèmes, on expose nos soucis. On dit, mais toutefois, moi je m'attends à toi pour me délivrer à cause de tel lien qui nous unit, à cause du contrat qu'on a signé. La Bible, c'est un contrat. La Bible, c'est un chèque en blanc. C'est-à-dire que quelqu'un te signe un chèque, il signe, mais à toi de remplir maintenant. C'est ça la Bible. Ça reste un contrat. Donc même si tu n'as pas encore rempli, en fonction du fait qu'il y a une signature, la personne qui a signé a fait un contrat avec toi, en te donnant le chèque, il s'est engagé. Donc Dieu nous a donné sa parole. C'est un contrat qu'il a fait avec nous. C'est à nous de faire valoir ce contrat-là. Donc les psaumes nous apprennent à faire valoir ce contrat, à faire valoir la parole de Dieu en rappelant à Dieu. Et Ésaïe nous le dit aussi dans Ésaïe 43, 26, « Rappelle-moi, plaidons ensemble. » Donc on rappelle à Dieu ce qu'il a promis. On rappelle à Dieu le contrat qui nous lie, le lien qui nous unit. Dans certains psaumes, on dit, mais moi, je suis quand même ton serviteur, tu ne vas pas me laisser devant ces méchants-là. Voilà, donc il y a le lien qui nous unit. Mais oui, c'est toi qui m'as confié, par exemple, telle responsabilité, ton peuple. Dans certains psaumes, c'est toi qui m'as confié telle mission. On rappelle à Dieu ses promesses. On rappelle à Dieu sa parole, donc le contrat. Et quand on est dans ça, on finit forcément dans les lieux élevés. La foi, le rappel de la parole de Dieu nous amène dans les lieux élevés où on ne sent plus la lourdeur des difficultés de la terre. Et quand on ne les sent plus, ça nous facilite la louange. Proclamer la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu à faire des merveilles. Voilà. C'est ça le schéma habituel des psaumes qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans le Notre Père. Même schéma à peu près. Notre Père qui est aux cieux, voilà, on proclame qu'il est notre Dieu. Il est au ciel. Il est notre Papa. Voilà le lien qui nous unit. Et on proclame qu'il est grand, on adore. On dit que tu es saint, tu es unique, tu ne mens pas, tu es juste, tu es vrai. C'est ça, tu es saint. Ensuite, on dit, on veut demeurer sous ta domination, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Et maintenant, après, on expose nos problèmes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous. Donc, on expose nos problèmes. Et ça finit quand maintenant, on expose tout ça, parce que là, l'ordre a été un peu changé, puisqu'on a mis le contrat, le lien qui nous unit avant, parce qu'on avait dit notre Père, des gens disant notre Père, donc il est notre Papa, il y a ce lien-là qui nous unit. Eh bien, ça finit par la louange, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Parce qu'on est dans les lieux élevés, on voit clair. Mais pour monter dans les lieux élevés, ça demande cette pratique-là, de reconnaître la divinité de Dieu, d'exposer quels sont les fardeaux qui nous bloquent ici dans les lieux bas. Et quand on les expose et on dit, mais non, non, mais toi Dieu, puisque tu es tout puissant et que je suis lié à toi par tel contrat, par telle promesse, mais tu peux m'en libérer, tu peux me libérer de tout cela. Et quand on est en train de parler comme ça, de lui rappeler ça, on est en train de monter dans les lieux élevés, là où on ne sent plus cette lourdeur-là, et du coup on peut louer simplement. Voilà ce que nous apprennent le gros des psaumes. Après, on avait dit, il y a des psaumes particuliers, comme déjà le premier psaume. C'est un psaume particulier, c'est un psaume enseignement qui nous enseigne l'importance de la parole de Dieu. Heureux celui qui ne s'assoit pas avec les méchants, mais qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté auprès d'une rivière. Donc là, le psaume 1, encourage à considérer que tous les psaumes, c'est la parole de Dieu. Encourage à aimer la parole de Dieu, à la méditer chaque jour. Donc, c'est un psaume particulier. Le psaume 2, c'est un psaume particulier parce que c'est un psaume qui annonce le Messie. Je suis tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, psaume 2, 7. Et demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Donc, on montre la mission du Messie. Donc, le psaume 2 est un psaume messianique. Et du 3 à 7, c'est le psaume général tel qu'on peut le retrouver dans le livre des psaumes. Et là, nous passons au psaume 8 qui nous parle du Dieu créateur. Voilà, donc il y a des psaumes qui vont parfois insister sur un côté de la nature de Dieu. Donc, nous lisons le psaume 8.
Psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Amen, amen. Là, on nous présente le Dieu de la création et on nous dit que c'est lui qui a mis l'homme au-dessus de la création. C'est ce qui explique le passage, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, l'homme, pas l'homme individu, hein, un homme, hein, l'humanité est de peu inférieur à Dieu par rapport à la création. Donc, dans sa relation à la création, mais en valeur absolue, l'homme vis-à-vis de Dieu, l'homme, même l'homme-humanité, c'est rien du tout, parce qu'il suffit de prendre juste notre galaxie. Hein. Rien que dans notre galaxie, on est insignifiant, on est comme une poussière, comme un grain de sable. Mais maintenant, si on doit penser qu'il y a 100 milliards de galaxies, c'est la folie, quoi. L'homme n'est vraiment rien devant Dieu, même l'homme-humanité, puisque l'homme-humanité, ce ne se trouve que dans une petite planète qu'on appelle la Terre, donc c'est rien du tout. Voilà. Mais l'homme, par rapport à la création, telle que Dieu l'a faite, ben, a une importance presque comparable à celle de Dieu, puisqu'il arrive à dominer. Donc Dieu lui a donné la domination sur la création, les poissons, les animaux. Vous savez, les humains peuvent assécher un lac. Ils peuvent assécher un fleuve. Hein. Ils mettent des barrages, ils font des choses, des ouvrages. Ils assèchent tout un fleuve. Ils ont la capacité de dompter la nature. Et quand David dit ça, il n'y a pas encore les barrages, il n'y a pas encore les armes à feu. Mais même depuis l'époque de David, quand l'homme était décidé, il pouvait éliminer les animaux les plus sauvages. Si l'homme dit, ben, dans cette zone-là, on va éliminer les lions, il va les chasser jusqu'à les éliminer, même si un lion face à un humain, le lion a l'avantage. Mais un lion face à l'humanité, il ne fait pas le poids. Même 1 million de lions face à l'humanité, ils ne font pas le poids. Donc c'est pourquoi c'est écrit que Dieu a fait l'humanité, hein, l'homme-humanité, de peu inférieur à lui. Donc en comparaison avec la création, oui, l'homme a des capacités. On voit comment il arrive à changer le climat par la consommation, par la consommation des biens sur cette terre, et ça arrive à bouleverser le climat. Donc l'homme a une grosse, un gros potentiel d'influence sur la création. C'est pourquoi c'est écrit, Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. Mais l'homme est fou, est devenu fou, orgueilleux. Il se croit fort par lui-même, alors que c'est Dieu qui a voulu ainsi dès la création. Il avait dit à Adam, je te laisse assujettir la terre. Mais l'homme pense que ça vient de son intelligence, alors que c'est une position que Dieu a fixée pour lui. Donc, nous revenons sur le verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Donc, le psalmiste présente le Dieu véritable à travers sa création pour dire, mais tu es extraordinaire, parce que quand on peut voir le ciel, on ne peut que être épaté, émerveillé. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Donc, ce passage nous montre qu'il arrive des moments où Dieu utilise clairement des enfants et même des bébés pour confondre des royaumes des adultes. Je vais vous donner un exemple. À la naissance de Jésus, vous avez vu comment il y a eu le trouble. C'était un bébé. Mais il y a eu le trouble. Hérode a tremblé. Il a fait tuer beaucoup de bébés parce qu'il fallait tuer le roi des Juifs qui venait de naître. Les mages sont venus de loin. Donc, par un bébé, Dieu a glorifié son nom. Et ce n'est pas le seul. On a vu l'histoire du bébé qui a permis à Salomon de faire un jugement. Mais ce jugement, c'est ça qui a rendu Salomon célèbre dans toute la région et dans le monde entier. C'est ce jugement-là. Mais c'est par un enfant. Et Dieu confond ainsi les grands. On peut dire, mais voilà, un enfant, à partir de lui, Dieu manifeste sa gloire. Et nous nous souvenons, dans un passage du Nouveau Testament, Jésus a rappelé ce texte qu'on vient de lire lorsque des enfants l'ont loué, des enfants l'ont apprécié. Il a dit, mais c'est ce qui est écrit par la bouche des enfants. Le Seigneur s'exprime. Donc c'est... Les enfants nous étonneront, et d'ailleurs c'est écrit que dans les derniers jours, Dieu va se servir d'eux puissamment. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. C'est-à-dire que quand un enfant agit, mu par l'Esprit de Dieu, qui va dire que quelqu'un l'a formé? Qui va dire que quelqu'un lui a dit? Ce n'est qu'un enfant, c'est vraiment Dieu. Combien de fois nos enfants ne nous ont-ils pas corrigés à la maison? Un enfant de 7 ans, 8 ans qui te dit, mais non, mais ce que tu fais là, ce n'est pas dans la Bible. Un enfant de 7 ans, 8 ans qui te dit, non, non, là tu as mal parlé. Dieu confond. Et personne ne va dire, mais non, c'est quelqu'un qui lui a dit non. C'est ce qu'il dit est tellement grand que ça ne peut venir que d'en haut. Voilà. Et Dieu va le faire de plus en plus. Il va confondre les grands. D'ailleurs, même Jésus l'a dit, hein, je te bénis, Dieu, d'avoir révélé aux petits les choses cachées au roi. Là, il nous appelle, nous, les petits. Voilà. Donc, Dieu utilise les petits. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est vrai, on est très, 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 très petit. Très, très, très petit. Même si on l'a dit, que l'homme peut faire des choses sur la création, mais il est petit par rapport à Dieu dans l'ensemble de l'univers qu'il a créé. Il est petit. Et je n'avais pas fini l'idée précédente en disant, même du temps de David, les gens pouvaient agir sur la création. Les gens pouvaient assécher des rivières, épuiser des puits, épuiser des sources. Les gens agissaient. Donc David n'a pas attendu qu'il y ait des armes à feu pour dire que l'homme peut dominer sur la création. Même à leur époque, il y a des choses qui changeaient par la consommation humaine, par l'action humaine. Malgré ça, l'homme reste petit. Et le psalmiste ne comprend pas pourquoi Dieu s'intéresse à l'homme. Après tout, notre forme ressemble à la forme d'un animal, quoi. On a le même sang que les animaux, à peu près, couleur, tout ça, mais peut-être certains composants biologiques sont différents, mais on a à peu près le même sang. Les mêmes nerfs, les cheveux, tout ça. Mais Dieu s'intéresse à l'homme et le psalmiste est dépassé. Finalement, la suite, c'est ça. Il explique que le nom de notre Seigneur, verset 10, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Pourquoi il dit sur toute la terre? C'est-à-dire que quand on parcourt la terre, c'est tellement magnifique, on a envie de crier « Gloire à Dieu !» Vous avez bien aimé, surtout quand on fait le voyage en France, on traverse toute la France, on traverse une moitié de la France. Tous les paysages, malgré parfois des climats différents, tous les paysages sont beaux. Pour moi, la France est le plus beau pays du monde. Les paysages sont tellement beaux. Alors qu'on change de département. Ce qui fait que moi, je suis étonné quand j'arrive ailleurs. On me dit, ah, vous venez de Normandie. Mais c'est beau là-bas. Moi, je dis, ah, bon, ils ont bien regardé. Mais oui, voilà. Parce que pour quelqu'un qui vient des Landes, quand il vient en Seine-Maritime, il trouve ça beau. Mais nous aussi, quand on va là-bas, on trouve ça beau. Finalement, partout, c'est beau en France. La France est une merveille de Dieu quand on contemple les paysages français et surtout avec certaines constructions humaines qui y sont imbriquées. Ça fait un ensemble très, très beau. Et on glorifie Dieu. On glorifie Dieu et d'avoir mis l'intelligence dans l'homme pour prendre soin de ça et que cela brille ainsi. C'est un des problèmes que moi j'éprouve. Je me dis, mais comment les gens ne peuvent pas croire en Dieu quand ils observent tout ça? Ça montre vraiment que l'homme est méchant. Hein? La méchanceté de l'homme, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une blague. C'est sérieux. Parce que quand on voit tout ça, vous savez, c'est certaines images du Tour de France, quand les cyclistes passent par certains villages, mais on dit, mais comment avec une telle beauté, tu ne peux pas t'agenouiller et reconnaître la grandeur de Dieu. C'est ce que le psalmiste, dans le psaume 8, nous dit. L'Éternel est grand sur toute la terre. Dans sa création, il est grand. Il faut être fou pour ne pas voir cela. Oui, il y avait des questions? Non, non. Ok, j'ai répondu à la question. Nous continuons, psaume 9.
Au chef des chantres, sur meurt pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes.
Amen, amen. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Bien-aimés, ce psaume tombe bien dans la période que nous vivons aujourd'hui, où les chrétiens deviennent comme des fourmis qui cherchent des refuges sous les arbres. Dictature sanitaire, dictature religieuse, impression de toute puissance de certains chefs de pays, d'État. Le mal semble régner, mais non, le psaume 9 nous dit non, non, les nations seront jugées. L'homme ne va pas triompher. Au verset 16, les nations tombent dans la force qu'elles ont faite. S'ils ont créé un virus, ils tomberont dans cette force-là. Elles-mêmes. Elles tombent dans la force qu'elles ont faite. Donc les gens pensaient tuer la foi chrétienne par le confinement. Au contraire, ça a multiplié les contacts chrétiens par Zoom, par Internet. Ça a multiplié aussi le sentiment de responsabilité de chaque chrétien de se dire « Je dois me lever, sinon je mourrai. » Eux-mêmes, ils finiront par dire « Mais on a mal fait les choses. » Mais cela ne sera possible que si le peuple de Dieu fait ces prières-là. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Donc, se souvenir des merveilles de Dieu dans des moments de détresse où les gens ont peur d'être licenciés, les gens ont peur de ne plus voyager. Se dire non, 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 non. Rien, rien ne doit m'enlever la louange. Mon Dieu aura le dernier mot. L'Éternel, verset 10, est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ce n'est pas un pays comme on entend les gens dire, « Non, mais il faut fuir en Afrique, c'est là-bas que... il n'y a pas de passe sanitaire. » Mais bien aimé, on peut mettre ça aussi là-bas. Ce n'est pas un pays qui est un refuge, c'est Dieu qui est le refuge. Il est notre refuge. Et du verset 1er au verset 9, au verset 10, il ne fait que louer Dieu pour les merveilles du passé, pour les succès du passé. Et c'est pourquoi il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Bien-aimé, au lieu de polémiquer, de réfléchir trop sur ce qu'on entend du camp ennemi, cherchons l'Éternel. Prions, luttons dans la prière, on va gagner. N'ayons pas peur, Dieu est pour nous un refuge, un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Soyons forts, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc David veut montrer que celui qui a fait les exploits du passé, il va le faire encore aujourd'hui. Plus d'ennemis des ruines éternelles, tu effaces leur nom, verset 6. Tu châties les nations. Il est notre défenseur. Mais le psaume 9 va loin. Pas notre défenseur seulement individuel, mais contre les nations. Donc le psaume 9 nous parle déjà de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des nations qui se rassemblent pour imposer leur loi sur l'humanité. David dit, le Seigneur est vainqueur des nations. Il est le vainqueur. Il ne se laissera pas faire. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles comme Babylone aujourd'hui. Des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement Il juge le monde avec justice. C'est Dieu qui règne, bien-aimé. Même si on ne le voit pas, c'est lui qui règne. Alors le chrétien qui est en contrat avec lui doit se réjouir. Il ne doit pas pleurer. Il doit marcher avec dignité et assurance parce que son Dieu règne. Nous avons l'habitude que de parler des choses négatives, bien-aimés. C'est dangereux. Tournons le regard vers les exploits du Seigneur aussi. Vous savez que dans les années 50, il y a Staline, comme à son habitude, il avait inventé un faux complot contre lui et l'appareil politique russe. Il avait inventé le complot suivant. Les juifs médecins veulent tuer tous les politiciens russes en leur donnant des mauvais médicaments. C'est inventé de toutes pièces. Ces gens-là, ils vont tuer tous les politiciens russes pour gagner quoi? Mais comme c'était devenu un fou, il s'est inventé ce complot-là. On a arrêté tous les médecins juifs, prison. Ils attendaient leur procès. Des parents, des enfants ont pleuré leur papa, leur maman, médecin, emprisonné, soi-disant pour un complot contre Staline. Le peuple juif était dans la détresse en Russie. Et puis il y a eu le procès. Bien sûr, la finalité du procès, c'est quoi? Condamné à mort. Mais quelques mois avant l'application de la sentence, Staline, s'étant inventé ce complot-là, il y a cru lui-même. Du coup, étant malade, il avait peur de consulter même les médecins russes non juifs. Parce qu'il se disait peut-être qu'il va m'empoisonner. Et comme c'était un homme irascible, fou dans sa colère, fou furieux, les gens avaient peur d'aller le déranger dans ses appartements. Or, le monsieur était devenu très malade et lui avait peur d'en appeler à un médecin. Les gens avaient peur d'aller le déranger. C'est comme ça qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est le verset. On a lu ce verset. C'est le verset 10. Non, c'est pas le verset 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Le complot là qu'il avait inventé l'a tué lui-même parce qu'il a fini par y croire. Du coup, il ne voulait plus consulter le médecin. Donc, la fosse que lui-même avait faite, il est tombé dedans. Et lui, quand il meurt, Beria prend le pouvoir. Beria sort tous les médecins juifs. Il les libère. Parce que Beria savait qu'après avoir tué les médecins juifs, c'est eux qu'on allait tuer. Donc, il savait que cet homme était devenu paranoïaque. Donc, il s'inventait régulièrement des complots. Ah, tel groupe veut me tuer. Donc, on vous prend, prison, condamnation à mort. Et là, c'était les médecins juifs. Les juifs ont pleuré. Dieu a regardé, a écouté leurs pleurs. Et Staline est tombé lui-même dans la fosse qu'il avait creusée. Et lui-même, maintenant, avait peur de consulter les médecins. Et les médecins juifs ont été libérés par Beria. C'était la fête. J'ai revu ce film-là. C'était la fête dans les familles juives. Les papas étaient de retour. Dieu est grand et fidèle. On ne doit pas craindre même un président. Le président que nous avons aujourd'hui, c'est des petits par rapport à Staline. C'est pas la même dimension. J'ai l'habitude de dire souvent aux jeunes, vous n'avez pas connu les vrais grands. Nous, on a connu des gens comme le Michael Jackson, donc il descend, tout le monde s'incline, que tu sois président, n'importe qui. Lui, il mettait le masque avant le temps. Il se promenait avec un masque pour dire que votre air que vous respirez est sale, lui ne veut pas respirer ça. En France, avec le masque. Non, c'était des grands dictateurs, les Staline, capables de tuer 2 millions de personnes sans sourciller. Mais il a été pris dans sa propre force. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, relevons nos têtes. Pourquoi baisser les armes sans avoir combattu? Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Il y a une pression sur nous, nous luttons d'abord dans la prière. Nous luttons d'abord dans les sacrifices. Nous luttons d'abord dans la vérité. Et si Dieu décide qu'on nous brise, on nous brise. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, de nous-mêmes nous capitulons. Bon, on n'a pas le choix. Non. D'abord, la lutte. C'est dans la lutte que les choses se décident. C'est très important, bien-aimé. Le psaume 9 doit nous réveiller. Notre Dieu est réel. Il est le vainqueur des nations. Donc, quand on lit ce psaume, on comprend qu'il est notre défenseur, vainqueur des nations. Amen. Nous continuons le verset et le psaume 10. Oui, question ?
Question Internet. Pourtant, dans Apocalypse, des chrétiens seront décapités. Il y a eu également des martyrs comme Zacharie et Étienne. Le Seigneur a permis que les dirigeants tuent, n'est-ce pas?
Oui, le Seigneur a permis, mais ces gens-là n'ont pas capitulé pour dire « Je fuis mon ministère, je fuis le travail de Dieu, puisque je ne pourrai pas, puisqu'on me tuera. » Non, ils ont continué jusqu'au bout. Les Jérémie, les... Voilà. Donc, on a même l'exemple parfait. C'est qui? C'est Jésus. Il a été crucifié. Mais dans la volonté de Dieu, pour les objectifs de Dieu, mais pas dans une logique de défaite. Parce que quand on vient l'arrêter, il dit « c'est moi », tout le monde tombe par terre. C'est pour nous montrer que ce n'est pas une défaite, c'est une décision divine. Mais aujourd'hui, les gens veulent que les chrétiens prennent des décisions dans une logique de défaite. Bon, on ne pourra pas. Il n'y a même pas de lutte, il n'y a même pas de résistance. Eh bien, on cède. Non. Quand nos frères protestants au XVIIe siècle, comme Marie Durand, enfermés pendant 40 ans dans la tour de Constance, quand ils subissent tout ça, ils sont amenés dans les galères. Quand ils sont tués dans les dragonnades de Louis XIV, on leur avait interdit de prêcher. Mais eux, ils continuent à prêcher. On les a appelés les prédicateurs du désert. Bien-aimés, c'est bien que les chrétiens aussi apprennent l'histoire. Parce que juste lire là et prier pour la nourriture, c'est bien, mais il faut lire l'histoire de nos prédécesseurs pour être bâti. Parce que l'Église est une continuité. L'Église n'est pas l'Église de 1950, de 1940. Non, l'Église, c'est depuis les pôles jusqu'à nous, nous faisons un lien, nous faisons un tout. Il faut qu'on connaisse l'histoire des chrétiens français, protestants, qui ont été tués à cause de l'Évangile. Comment ils prêchaient, donc on les appelait des prédicateurs dans le désert. Ils étaient interdits, mais ils se réunissaient, ils avaient des endroits, ils avaient des codes, ils se réunissaient dans ces endroits, ils prêchaient la parole de Dieu. Et les dragonnades, ont attrapé, ont tué certaines personnes, mais l'Évangile n'a pas été lié. Ce qu'on on veut dire, ce n'est pas que le chrétien ne sera jamais tué, ni ne sera jamais emprisonné. D'ailleurs, on est les premiers à en parler régulièrement concernant l'Église persécutée. Une de nos spécialités ici, c'est de parler de l'Église persécutée dans le monde entier. Mais cette Église-là est vaillante. En prison, elle parle de Dieu, elle parle de Dieu même au bourreau. Voilà, c'est une église qui ne capitule pas à l'avance sans combattre. Elle est frappée dans le combat. Combattant jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Nous continuons, psaume 10.
Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités. Et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi.
Amen. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Donc, un homme tiré de la terre, nous, on a vécu ces choses-là. Donc, un homme tiré de la terre, quoi. Donc, un humain qui sème l'effroi. Nous, on avait un dictateur Mobutu. Donc, il semait l'effroi dans le pays. Il semait l'effroi. Donc, vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas parler de lui parce que vous ne savez pas quel est l'espion qui est autour de vous. Mais il est écrit là, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Quand Staline est mort, sa statue a été déboulonnée dans les instants qui ont suivi. Quoi. Un homme qui faisait peur à 22 millions de kilomètres carrés. Plus que ça, puisque même les Pologne, tout ça a été sous sa domination. Donc, à presque 30 millions de kilomètres carrés, il faisait peur à toute cette étendue-là. Donc, une étendue comme l'Afrique, quoi. Un homme. Dieu nous dit dans ce passage, c'est moi qui vais vaincre le méchant. Le méchant ne vaincra pas. C'est vrai que nous avons tous un problème, c'est qu'on a tendance à devenir les journalistes des méchants, à dire tout ce qu'ils font de mauvais, à rester dans ça. Or, les psaumes nous exhortent à nous rappeler que Dieu est le vainqueur des méchants. On nous a rappelé dans le psaume 9 que Dieu était le vainqueur des nations. Dans le psaume 10, on nous rappelle que Dieu est le vainqueur des méchants. D'accord, nous assistons, nous voyons ce que font les méchants. Ne soyons pas leurs journalistes. Soyons des artisans de prière. Organisons des temps de prière pour détruire leurs œuvres. Organisons des temps de prière pour louer Dieu, qui est au-dessus de tout ça malgré tout. Disons-nous ceci, si le méchant est si puissant, alors combien Dieu et encore plus puissant. Au fait que les méchants nous servent à réaliser la grande puissance de Dieu. C'est-à-dire que le méchant nous impressionne dans sa méchanceté, que cela nous amène à dire, ah bon, donc Dieu est plus grand que cette méchanceté que je vois. Dieu est plus grand que cette nation. Alors combien il est? Donc que les méchants te servent de mesure d'élévation encore de Dieu. Parce que tu te dis que, selon la parole, Dieu est encore au-dessus de lui. Alors si le méchant t'impressionne, alors combien doit être impressionnant le Dieu véritable? Puisque Dieu est au-dessus du méchant qui t'impressionne. Nous, on reste dans ce qui nous impressionne venant du méchant et on en néglige l'adoration, la louange du Seigneur. Mauvaise nouvelle, nous, au lieu de contrer ça par le psaume 112, verset 7, Dieu, et comment dire, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ah, nous prenons la mauvaise nouvelle, nous amplifions et nous cherchons des gens pour pleurer avec nous. Au lieu de chercher des gens qui vont nous effacer cette mauvaise nouvelle, on cherche ceux qui vont commenter avec nous la mauvaise nouvelle. Non. Bien-aimés, soyons des gens qui cassons les mauvaises nouvelles. Tu arrives quelque part, on t'annonce la mauvaise nouvelle, toi tu réponds par un verset biblique pour casser cette nouvelle-là, pour sortir les frères du doute et leur dire notre Dieu existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Même si on t'appelle pour annoncer le cancer, tu dis, on va prier. C'est comme si on sent au bout de la ligne la personne dire, mais oui, mais moi aussi je suis chrétien, j'ai déjà prié. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je pleure? Non, on va prier. On va se rappeler les exploits de Dieu dans la prière. On va se rappeler le contrat qui nous lie, le contrat de la croix de Golgotha. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. On va se rappeler l'amour de Dieu. On va se rappeler la bonté de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et quand vous sortez de ce moment-là, vous êtes dans les lieux élevés où on peut marcher au-dessus des problèmes de la terre. Et les instants qui suivent nous démontrent l'exaucement de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à marcher dans les lieux élevés. C'est en refusant de capituler vis-à-vis des méchants, mais en demeurant dans la foi, dans l'amour, dans la prière, nous allons marcher dans les lieux élevés et c'est les méchants qui vont craquer. La vie chrétienne est un marathon. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Qui va se fatiguer le premier? Le psaume nous dit que c'est le méchant qui va se fatiguer le premier. Mais ça nous appelle, nous, à faire le marathon aussi. Parce qu'il faut que quelqu'un se fatigue, donc nous aussi, on doit courir. Les gens veulent que, avant la course, c'est comme s'ils veulent qu'avant la course, on casse la jambe du méchant. Oh, non, Dieu dit non, non, toi aussi, tu dois courir. Mais c'est lui qui va se fatiguer le premier, pas toi. Parce que moi, je te soutiens, toi. Mais les chrétiens sont là, assis sur le fauteuil, sur le canapé. Ah, Seigneur, tu vois le méchant, sous-entendu, casse-lui la jambe. Non. Dieu dit, cours, affronte, résiste. Et c'est lui qui va se fatiguer le premier. Ne refusons pas de courir. Vous savez à quoi l'apôtre Paul compare le combat spirituel, la vie chrétienne? À la boxe et à la course, les deux choses. D'accord? On se donne deux coups, mais Dieu nous prévient, toi tu tiendras toujours parce que moi je suis avec toi. Tous les coups que tu recevras ne te feront pas tomber à terre. Mais lui, à force de recevoir tes coups, lui tombera. Parce que moi, je ne suis pas derrière lui, je ne suis pas derrière les méchants. Mais le chrétien ne veut pas combattre. Il veut qu'on tape le méchant avant que lui combatte. Mais non, Dieu nous a établis comme autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dois combattre. Tu dois dire à la douleur qui te menace, sors au nom de Jésus-Christ. Jésus a pris ça à la croix. Voilà. À la maladie, tu lui donnes l'ordre. On veut croiser les bras, on dit, mais Dieu voit bien que je souffre. Oui, mais il voit bien que tu souffres, mais il t'a donné l'autorité. Tu dois l'utiliser. Bien-aimés, courons. Courons et battons-nous. C'est l'autre qui va se fatiguer. Puisque ceux qui sont soutenus par Dieu ne tombent jamais. Même s'ils sont épuisés, Dieu les remonte. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Ce n'est pas un chant composé par un humain, c'est le psaume 125. Non, je veux dire par là que ce n'est pas un chant composé à notre époque. Hein. C'est dans la Bible, c'est le psaume 125. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dieu existe, il est là, bien-aimé. Ne capitulons pas. Notre frère aujourd'hui nous exhorte, David nous exhorte. Le méchant sera vaincu, mais il faut que le juste se batte. Voilà. Les justes d'aujourd'hui veulent que le méchant soit vaincu avant le combat, non. Les justes d'autrefois ont toujours combattu. Et le méchant a été vaincu pendant le combat. Et quand c'est avant, c'est le juste ne le constate qu'en allant combattre. Vous vous souvenez de Sanhérib, dont les enfants d'Israël, quand ils se sont réveillés pour aller au combat, c'est là qu'ils trouvent tous les soldats tués. Mais ils ont découvert ça en allant. En allant. Les lépreux ont découvert les soldats fuyant en allant dans le camp ennemi. S'ils n'étaient pas allés dans le camp ennemi, tout le peuple, eux, seraient morts de faim, croyant que les ennemis sont là où ils n'étaient plus là. Les lépreux ont eu le courage d'aller dans le camp ennemi. C'est là qu'ils constatent que les soldats ont déjà fui. C'est en marchant, en combattant, qu'on remporte la victoire. Même si parfois, juste en allant, on trouve que l'ennemi, le combat est déjà fini, mais c'est en allant qu'on va le constater. C'est en combattant. Bien-aimé, le Seigneur a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce qu'on est vaillant en restant assis? Alors là, on change la définition de vaillant. Hein? Non, on est vaillant en allant combattre. C'est là la vaillance. C'est très important, bien-aimés. Le Seigneur nous interpelle dans ces temps difficiles à nous battre, à résister, à combattre, à ne pas nous laisser avoir par la grandeur des menaces adverses pour capituler avant le combat. Même il y a des gens qui disent « Ah, on, c'est fini, on n'a pas le choix, c'est faux ». Bats-toi d'abord. Que le combat décide de la fin et non pas les impressions. C'est ce qui s'est passé avec Goliath, non? Quand il paraît, tout le monde dit « Ah, moi je ne peux pas me battre. » Il mesure 2,50 m. Il a une lance comme un ensouple de tisserand. Son bouclier est tellement grand que c'est quelqu'un qui lui porte. Ça ne sert à rien. Mais un vaillant est arrivé, rempli du Saint-Esprit. David, l'écrivain de ce psaume. Vous voyez, tout va ensemble, c'est lui qui écrit. Que le méchant va être vaincu par l'Éternel. David, il nous a dit que il menace carrément Goliath. bien-aimé, un jeune enfant, comme je l'ai souvent dit, je pense qu'au fond de lui, Goliath a eu peur. Quand tu as un petit comme ça te menace, tu te dis, mais il vient d'où? Les grands, les vrais soldats ont peur de moi, mais c'est ce petit-là qui vient, qui dit qu'il va me tuer. Bien-aimé, ça fait réfléchir. Je crois qu'il a tremblé. David s'est comporté selon le Saint-Esprit, selon la Bible, selon Dieu, selon ce que les enfants de Dieu doivent faire aujourd'hui, proclamer la victoire et aller au combat. Au lieu de rester à dire, ah, c'est trop fort. Ah, Macron est fort. Oh, bien-aimé, ce n'est qu'un homme, c'est écrit quoi? Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Oh, la parole de Dieu est puissante. L'homme tiré de la terre. Au fait, quand Dieu voit l'homme qui est tiré de la terre faire peur aux autres, il dit, oh, mais c'est ce truc-là que moi j'ai pris de la terre qui fait peur à tout le monde, du sable que moi j'ai formé. C'est ça? Je leur montrerai que c'est rien du tout. Mobutu, allez dans le tombeau. Staline, dans le tombeau. Michael Jackson, dans le tombeau. Ce n'est pas l'homme qui est tiré de la terre qui va devenir Dieu sur la terre. C'est moi l'Éternel. Bien-aimés, réveillons-nous. Les chrétiens se comportent comme si on était dans le temps des cavernes, aller maintenant se fuir dans les cavernes, aller changer de pays. Non, on ne va pas changer de pays, on va combattre là où on est. Et c'est nous qui allons vaincre. Tant que l'Église est sur terre, Jésus nous l'a promis. Hein? Rappelons-nous les schémas du psaume. Dans les psaumes, il y a un contrat qu'on rappelle. Quel est le contrat que nous avons avec le Seigneur? Matthieu 16, 18 à 20. Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur ton Église, sur l'Église. Que la télé ne nous impressionne pas. Demeurons fidèles au Seigneur. Verset 17, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Il y a quand même un terme qui dit, tu as fermé leur cœur. Dieu ne nous défend pas juste défendre, mais il a fermé aussi nos cœurs pour qu'on soit dans l'assurance et qu'on attende la délivrance et qu'on marche dans la délivrance, qu'on combatte dans la délivrance. Oui.
Il y a une question internet concernant l'épître aux Romains. Il n'y a pas de référence précise, mais bon, l'internaute parle de l'épître aux Romains. Paul dit qu'il veut être maudit afin que ses frères juifs soient sauvés. Mais dans la même lettre aux Romains, il dit que nul te ravira de ma main. Comment le comprendre?
Que nul te ravira, nul ravira qui? Bon, bref, Paul exprime, hein, je pense que dans... On en avait parlé du temps de l'étude sur Job, qu'il nous arrive d'exprimer hein, avec cri et force notre détresse. Et parfois, ça peut paraître comme une opposition à Dieu ou à la parole de Dieu, mais c'est juste le cri du cœur. Donc, on en avait parlé du temps de Job. Là, le cri du cœur de Paul, c'est le salut de ses frères dans la chair. Il dit, ah, si même je dois être, moi, privé du salut pour que eux soient sauvés, je voudrais bien, mais Dieu n'exaucera pas ça. Dieu n'exaucera pas ça. C'est pourquoi, voilà, je crois qu'il y a peut-être cette partie-là qui dit, nul te ravira de ma main. Dieu n'exaucera pas une telle prière que toi, tu sois perdu pour que d'autres soient sauvés. Non, il n'exaucera pas ça. Mais c'est le cri du cœur de Paul. Il aimait tellement ses frères qu'il se sentait parfois donc, choisir. Donc, s'il fallait qu'on lui propose ça, que lui soit perdu et que les Juifs soient sauvés. Et il le ferait, quoi, mais c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas parce que le salut est individuel. Voilà.
L'internaute, ouais, Rudy, Paul savait qu'il était sauvé, donc il ne pouvait être maudit.
Non, c'est ce que je viens de dire. Même quand on sait, il y a parfois, on sort un cri du cœur. Donc pendant l'émotion, c'est l'émotion qui parle. Ce n'est plus la raison qui parle. On en avait parlé du temps de Job pour dire que Job aimait quand même Dieu malgré certaines paroles qu'il a sorties qui semblaient des paroles contre Dieu. Mais c'était les cris du cœur. Et il faut être honnête pour les sortir, pour être corrigé. Parce que beaucoup gardent, ils ne sortent pas, et ils pensent des mauvaises choses. Mais il y a des gens qui les sortent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ils ont tort, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils veulent offenser Dieu ni changer la parole de Dieu. C'est juste le cri du cœur dans l'émotion, dans la souffrance. Nous lisons le psaume 11.
Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face.
Amen. Les hommes droits contemplent sa face. Ce psaume est la continuité du psaume 10. Hein. C'est vraiment la suite. C'est la même chose. C'est un corps. Voilà. Donc, là, on nous montre que Dieu est notre refuge, notre protection. Et on n'a pas à chercher la protection ailleurs. Hein. Souvenez-vous d'Ésaïe 30 et de Jérémie 30, je crois, où on dit malheur à ceux qui vont chercher le secours où? En Égypte. Donc, souvent dans des temps de détresse comme nous vivons aujourd'hui, les gens veulent s'évader quelque part, fuir là où il n'y a pas le même problème. Mais sauf que là-bas, d'autres problèmes les attendent aussi. Et David dit, c'est Dieu qui est mon refuge. Comment vous me dites fuis dans les montagnes, comme si j'étais un oiseau. J'aime beaucoup ça. Donc vous me demandez de fuir dans les hauteurs des montagnes comme si j'étais un oiseau. Non, mon refuge, c'est Dieu. Quel est l'exemple le plus frappant qu'on a dans la Bible de ce genre de choix? C'est le livre de Ruth, Élimélec est à Bethléem avec sa femme et ses enfants, ses deux fils. La famine arrive à Bethléem. Bethléem, ça veut dire quoi? Maison du pain et de la louange. Donc Bethléem, maintenant, au lieu de revendiquer ce nom prophétique de Dieu, lui, il préfère chercher le secours où? À Moab. Et là-bas, quand ils vont à Moab, qu'est-ce qui arrive? Il meurt et ses deux fils. Peut-être qu'ils là-bas, ils mangeaient, mais ils sont morts. Mais quand Ruth ainsi que Naomi reviennent à Bethléem, est-ce que n'ont-ils pas retrouvé les gens qu'Élimélec avait laissés? Ils en ont retrouvé, même en grande quantité. Les gens qui sont restés à Bethléem n'ont pas peut-être très bien mangé, mais ils sont restés vivants. Bien-aimés, la fuite, l'évasion ou le compromis n'est pas une solution. En anglais, on dit « give them an inch, they take a yard ». Donc, vous leur donnez la main, ils vont prendre le bras. Tu fais une compromission de main, ces gens-là te demanderont cette fois-ci le bras. Tu donnes ta maison, ils finiront par te demander tes enfants. Attention, le compromis, l'évasion, la fuite n'est jamais une solution dans les temps d'adversité. C'est la résistance, bien sûr, selon les règles bibliques. C'est cette résistance-là qui nous donne la victoire. Ce n'est pas le compromis. Satan ira toujours loin dans le compromis. Toujours loin. C'est ça, quoi. Et David dit, non, je ne veux pas fuir dans les montagnes, je ne suis pas un oiseau. Je reste là où je suis, mais avec Dieu. Mais non, mais attention, verset 2. Les méchants, ils sont en train de bander l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. David répond, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est un verset que nous utilisons souvent. Le juste qui n'est pas sur les fondements bibliques, même si dans son cœur il est injuste, il va faire des erreurs. C'est pourquoi nous devons rester sur les fondements bibliques. Être juste dans le cœur ne garantit pas tout. C'est bien d'être juste dans le cœur, mais être aussi assis sur les fondements. Parce que si les fondements sont ébranlés, ces gens-là vont vouloir que nous agissions en dehors des fondements bibliques. Ainsi, nous perdons notre capacité de juste, notre force de juste. Restons dans le juste et dans la Bible, dans les fondements solides. Verset 4, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Donc il dit, l'Éternel reste sur le trône. Quoi qu'il arrive, il est sur le trône, il règne. Ne nous laissons pas perturber. Il veille sur nous. Ses regards sont sur les justes. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Donc il s'occupe du juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Même si on ne le voit pas aujourd'hui, et peut-être parfois les méchants sont déjà en train de brûler des charbons, mais nous on ne voit pas, nous on croit qu'il est toujours fort alors qu'il est en train de subir déjà la colère de Dieu. Le psaume 10 nous montre combien Dieu est en colère contre le méchant qui dit... On dit même au verset 4, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Ah bon? Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Oui, vous faites tout ça. Vous vendrez la drogue aux gens, toutes sortes de drogues. Vous tuez les enfants d'autrui. Des trafics d'enfants qui sont enlevés. Des mutilations d'enfants enlevés dans les lieux secrets. Dieu voit tout ça. Bien-aimés, ne soyons pas découragés. Tout ce qu'on apprend d'atroce, d'horrible, Dieu voit tout ça. Verset 11, il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Mais nous, on dit au verset 12, lève-toi éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Mais il est écrit, ben, le Seigneur va briser le bras du méchant, au verset 15, punir ses iniquités. Et le verset 18 à la fin nous dit, « Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Donc Dieu va agir, ce n'est pas un homme qui va régner, ce ne sont pas les nations qui vont régner, c'est Dieu. Bien-aimés, même si nous faisons face à un complot international, psaume 33, on n'est pas encore arrivé à là, dit que Dieu confond le dessein des nations. Mais le psaume 9 nous a parlé à souhait pour nous dire clairement que Dieu est le vainqueur des nations. Même si un méchant est arrogant et paraît très puissant, le psaume 10 qu'on vient de lire nous dit « Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi, Dieu va s'en occuper et ils cesseront de faire peur aux gens. » Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier afin que Dieu fortifie notre foi dans ces temps difficiles, que nous ne puissions pas nous comporter comme des gens traqués. Qui va nous traquer? Nous sommes chez nous, la terre nous appartient. Voilà, nous ne sommes pas traqués. Seigneur, nous venons prier pour dire comme David, nous ne sommes pas un oiseau pour fuir dans les hauteurs de montagne. La terre nous appartient. Nous n'allons pas vivre en homme ou femme traqué, parce que notre Dieu existe. C'est lui qui règne. C'est lui le véritable Dieu, l'alpha, l'oméga. Nous allons affronter les événements par la puissance du Saint-Esprit, par la parole, par la louange, par la communion fraternelle, par la prédication de la parole et la vérité. Ô Seigneur, relève ton peuple qui est dans l'effroi. Relève ton peuple qui est abattu. Relève ton peuple qui est dans la tristesse. Manifeste-toi, Seigneur, et que ton peuple se comporte comme David, ton fils, face à Goliath. Que ton peuple dise, qui insulte l'Éternel? Le méchant ose-t-il affronter notre Dieu? Eh bien, notre Dieu va se lever. Comme c'est écrit dans Nombre 10, 35, lève-toi, ô Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. C'est ça notre prière de ce soir. Lève-toi, Éternel, tant que ton Église est sur terre, qu'elle soit vainqueur au nom de Jésus et que nos ennemis, les ennemis de l'humanité, soient dispersés. Tant que nous sommes sur terre, c'est nous qui régnons. Car tu as dit, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Et nous saisissons cette promesse, cette prophétie dans le nom de Jésus et nous l'appliquons ce soir en France et dans le monde entier. Amen.